Ce n'est pas pour me vanter, mais il fait drôlement chaud aujourd'hui. Ces mots d'Eugène Labiche en pleine hubris, je les fais miens, car qui n'a pas besoin de temps en temps d'un léger excès de confiance en soi. Bienvenue dans le Mac de l'été où l'actu fait une pause et où l'actu et où la culture prend le relais. Ce soir, avec nous et à mon grand plaisir, un comédien pensionnaire de la Comédie française, acteur parfois pour le cinéma, un mélange étonnant de joie et de profondeur, comme le présente l'administrateur général du Français. Bonsoir Biran Ba.
Bonsoir.
Vous jouez en ce moment et jusqu'au 15 juillet Une Mouette, d'après La Mouette d'Anton Tchekhov, et vous serez surtout co-responsable de pas mal d'insomnies au Festival d'Avignon, puisque vous avez trois rôles au sein du Soulier de Satin qui se jouera la nuit dans la Cour d'honneur à partir du 19 juillet prochain. On discutera ensemble de ce rêve que vous avez fait à 14 ans et réalisé depuis maintenant au moins 6 ans, faire partie de la Comédie française. J'ai aussi très envie de vous voir discuter avec deux membres du Papotin, journal atypique, à la base des rencontres du Papotin qu'on peut regarder sur France 2 depuis 2022. Ils ont consacré leur dernier numéro au théâtre parce que, comme vous, apparemment, ils ont leur ronde serviette à la Comédie française. Et puis au milieu de ce joyeux bazar, je vous fais un petit point sur les nouveautés culturelles, les mauvaises nouvelles budgétaires aussi du jour, ce sera dans le panorama. Alors, s'il vous plaît, étirez vos jambes, lâchez le frein à main, ouvrez les fenêtres, je m'occupe du reste. Le Mac de l'été, c'est jusqu'à 19h sur France Inter.
France Inter, le Mac de l'été, Marie Misset.
Biran Ba, rassurez-moi, quand vous aurez joué pendant plusieurs nuits Le Soulier de Satin, cette pièce de Paul Claudel qui dure 8 heures en l'occurrence pour cette version-là, vous allez dormir un peu ?
On va dormir, mais la journée, du coup, et on sera un peu décalé.
Mais après, vous faites des pauses parfois après, avant de reprendre votre souffle pour la rentrée ?
Pour la rentrée, on va essayer. Après, voilà, j'ai une petite semaine de vacances juste après le Festival d'Avignon.
C'est minuscule.
Ouais,
c'est
mais
minuscule, Biran Ba. Je vous demande, parce que je veux savoir, moi, si les mois d'été sont pour vous synonymes de liberté ou pas. Car qui dit Mac de l'été dit test de la personnalité. Je veux savoir quel saisonnier vous êtes. C'est l'interview haute saison. Biran Ba, ça commence quand pour vous l'été ?
Normalement, ça commence fin juillet.
Fin juillet ?
Donc, ouais, normalement, ça commence fin juillet, le vrai
c'est
été.
Plutôt tardif.
C'est plutôt tardif.
Dans votre démarrage de l'été.
Ouais.
Ça ressemblait à quoi les étés quand vous étiez gosse, quand vous étiez enfant ?
Moi, c'était. En fait, j'étais souvent dans des centres de loisirs. Donc, j'allais. Soit on partait une semaine en camping, etc. Ou alors, sinon, je partais dans ma ville. Il y avait plusieurs centres. Et donc, en l'occurrence qui s'appelle les Tourelles, et en fait on faisait plein d'activités, on partait le matin, on
prenait le bus. Dans l'heure.
Dans l'heure, exactement, ouais. Je viens de Vernon, et voilà, donc on partait toute la journée, puis après on revenait le soir et on faisait plein d'activités, plein air et comme pratique.
Pas trop d'ennuis du coup ?
Non, jamais.
C'est plutôt des bons souvenirs.
Ouais.
Est-ce que c'est une saison qui vous plaît, que vous aimez ?
L'été ?
Ouais.
C'est ma saison préférée.
Très bien.
Ouais.
C'est quoi votre image fixe d'un été idéal ? Voilà, si vous deviez vous représenter l'été, un moment parfait d'été, à quoi ça ressemble ?
Je dirais classique. Bord de plage, évidemment. Il y a la mer. Il faut écouter la mer, surtout. Il faut la regarder, il faut l'écouter. Et voilà. Pas trop chaud non plus.
Non.
Voilà. Donc, pas mi-août non plus. Mais genre hier et aujourd'hui, c'est pas mal.
Et vous êtes plutôt hyperactif ou lézard au soleil ?
Je me permets d'être lézard.
Vous vous autorisez à la lézarderie,
voilà,
un mot qui n'existe que très peu. J'ai envie de vous replonger dans l'été de vos 20 ans, c'était en 2012, François Hollande venait d'être élu, Barack Obama était en passe d'être réélu, Johnny Hallyday était au Stade de France, bref, on vivait dans un autre monde, et l'été 2012, ça sonnait comme ça.
Bonsoir, vous habitez ici ?
Oui.
On a des plaintes pour tapage et consommation d'alcool par des mineurs. Tout le monde s'assied, on en a pour un bon moment. Vous n'avez pas d'objet pointu sur vous susceptible de se planter dans mon corps ?
Non.
Tant mieux, parce que moi, j'en ai un.
C'est pas halal tout ça, c'est pas halal. Je dois faire du bif, de la moula, du caramel. Du caramel.
Il paraît que Peter Higgs, 83 ans aujourd'hui, a mis le champagne au frais. Il peut, le boson qui porte son nom et dont en 64, avec deux autres chercheurs, il avait postulé l'existence, a été très probablement découvert.
It's
des souvenirs de Call Me Maybe, Biranba. Je sens que la musique vous est remontée en tête en une seconde, on l'avait un peu oublié depuis.
Mais bien sûr, la musique, de toute façon, c'est un souvenir qui est instantané. Dès qu'on entend une musique qu'on a écoutée dans notre jeunesse, ça revient tout de suite. Donc là, les quelques musiques...
Et Booba, c'est revenu tout de suite
ah
aussi.
Ah ouais, là c'était instantané.
Vous vous rappelez de ce que vous faisiez l'été de vos 20 ans de ce que, où est-ce que vous étiez? Est-ce que vous étiez à Avignon, par exemple, jeune théâtreux?
Non.
Avec envie de percer?
Non, faut savoir que j'ai jamais fait Avignon. J'ai
c'est
jamais...
votre première fois?
La première fois que je vais faire Avignon en tant qu'acteur. Et je crois que même en tant que spectateur, j'y étais il y a 3 ans. Mais j'y suis passé vraiment même une journée. J'ai jamais vu un spectacle là-bas. Parce que l'occasion s'est jamais présentée. Et...
Vous aviez un rejet, Biranba, d'Avignon?
Non, mais non, pas du tout. En plus, en vrai, pas du tout. Mais c'est peut-être aussi la concentration d'acteurs qui m'angoissait un peu. Étant donné que j'étais à l'école, j'ai fait plein d'écoles de théâtre. Et peut-être que ça m'angoissait aussi d'être entouré d'acteurs et d'actrices.
L'été, peut-être, voilà, s'éloigner un petit peu.
Ouais, faut couper
un peu.
Exactement.
Mais vous vous souvenez un peu ce que c'était, 20 ans? Qu'est-ce que vous pouviez bien faire?
20 ans, je pense que je travaillais chez Bouygues Télécom. Parce que je devais être étudiant en BTS. Donc je pense que du coup, les étés, je travaillais... Voilà,
télémarketeur
Non, j'étais vendeur. J'étais vendeur
en
magasin. Boutique. Ouais, exactement.
En tout cas, en 2012, il n'y a pas eu que Call Me Maybe. Il y a eu aussi ce clip de Miley Cyrus, rappelez-vous, où elle était accrochée à une immense boule en béton autour d'une chaîne. Ça ne vous dit rien, mais si, rappelez-vous, le titre était super. C'était Rocking Ball. J'ai très mal prononcé. Wrecking Balls. Je ne vais pas réussir à le prononcer. Miley Cyrus, s'il vous plaît. Biranba, vous n'aviez pas le clip, mais vous avez bien le titre, c'était Wrecking Ball de Miley Cyrus. Et si quelqu'un veut m'apprendre à le prononcer, je suis tout à fait preneuse.
France Inter, le mag de l'été.
Que dirais-tu si je te demandais entre Dieu et Rodrigue de choisir?
Tu es un pêcheur trop habile.
Trop habile, pourquoi?
Pour faire sortir la question avant que la réponse soit prête. Viens, cher Rodrigue.
Le soulier de satin, action espagnole, en 4 journées.
Piranba, vous chantonnez sur tout, sur le soulier de satin, comme sur Miley Cyrus. Je trouve ça super. C'était donc un extrait du soulier de satin par la Comédie Française présentée cet été de nuit à Avignon. Ça commencera le 19 juillet. Ça promet d'être assez extraordinaire dans la cour d'honneur. Vous tenez 3 rôles dans cette pièce, celui du chinois, celui de vice-roi de Naples et celui d'un soldat. Vous dites que pour vous, jouer dans cette pièce, Piranba, c'est une fête. C'est une fête du théâtre même. Pourquoi ?
Ouais, c'est une fête de théâtre parce que déjà, quand Eric nous a présenté le projet, il nous a dit « Tout ce que je veux, c'est de la joie ». Et en fait, on a un vrai plaisir à jouer ensemble, déjà premièrement, et ensuite de jouer avec le public. C'est-à-dire qu'en fait, le quatrième mur, donc la distance qu'on met généralement avec le public, et bah en fait, il est cassé et on joue pour eux et avec eux. Et là, c'est un voyage qu'on leur propose, c'est comme, je dirais, c'est comme les Razmoquettes. Étant donné qu'en fait,
je m'y attendais pas.
Bah voilà, la référence. Non, mais c'est-à-dire qu'en fait, on arrive, on a rien. En fait, on n'a pas d'éléments de décor ni quoi que ce soit. Quand on était en Richelieu, on avait uniquement des toiles. Et en fait, c'est juste des acteurs qui arrivent avec des costumes. Et on joue.
On joue et on invente son décor et on demande aux gens de l'inventer aussi
exactement,
avec nous.
Exactement.
Je vois les Razmoquettes, je vois le principe. On va en reparler tout à l'heure du soulier de satin. Évidemment, j'ai envie de revenir un petit peu sur votre parcours. Vous avez grandi dans l'Eure, de parents sénégalais. Est-ce que vous pouvez me raconter comment vous êtes rentré en contact avec le théâtre, votre première rencontre ?
Moi, c'était au collège. C'était au collège, en fait, où en sixième, je faisais une poésie comme tous les collégiens font. Et je m'amusais en fait à faire les différents personnages devant ma classe. Et ma prof de français m'a dit « Tiens, tu devrais t'inscrire au club de théâtre ». Donc moi, ça m'était étranger. Voilà, club théâtre, moi je faisais du football, personne faisait de théâtre autour de moi. Et en fait, au fil du temps, j'ai mis 2 ans en fait pour m'y inscrire.
Elle a insisté, cette professeure ?
En fait, elle a insisté sur le coup. Je lui ai dit « Non, c'est pas fait pour moi ». Et ensuite, il y avait mes autres profs de français qui ont pris le relais et qui m'ont dit « Il faut vraiment que tu t'inscrives ». Et du coup, je m'y suis inscrit par la force des choses. Et en fait, donc j'ai commencé le théâtre avant de voir une pièce.
C'est ce que j'allais vous dire. Vous avez d'abord joué à la cantine du collège.
Exactement.
Avant de voir une pièce de théâtre.
Ouais,
et
ça.
Là, la première que vous voyez, c'est une pièce de la Comédie Française.
Exactement, ouais. C'était
vous
la
avez
grande
14
magie.
Ans.
Exactement. La grande magie d'Eduardo de Filippo. Et on a fait une sortie. On est parti à la Cinémathèque. On est parti au Grand Rex. On est parti, du coup, à la Comédie Française le soir. Et là, c'est la première fois de ma vie où je vois des acteurs jouer. Tout court. Et là, je voyais tout ce monde qu'il y avait autour de nous qui écoutait une seule chose. Et je me suis dit, c'est là que je veux être. J'avais cet objectif, sans me rendre compte forcément de ce qu'était la Comédie Française. Quand on a 14 ans, on n'a que des rêves, en fait.
De ce que ça impliquait.
Exactement. Voilà. Et du coup, au moins, ça me permettait juste d'avoir un objectif.
Mais ça a été un choc esthétique. Genre, je ne veux rien faire d'autre que ça.
C'était une évidence. Je me suis dit, c'est ça que je veux faire, je veux être là. C'est ça, je veux raconter des histoires de cette manière-là. Et du coup, ça m'a permis en fait de creuser mon sillon et toujours en fait d'avoir ce rêve-là qui m'a permis d'avancer.
Et ce rêve-là, vous l'avez totalement réalisé parce que un tout petit peu plus de 10 ans plus tard, vous êtes effectivement appelé par Éric Ruff qui était déjà à l'époque à la tête de la Comédie Française. Enfin, il vous appelle pas d'ailleurs, il vous envoie un petit texto comme ça alors que vous êtes au Conservatoire National.
Ouais.
Comment vous regardez ça parce que déroulé comme ça, on dirait un petit peu un conte de fées. Comment vous regardez, vous, ce parcours, maintenant que vous avez pris un tout petit peu de bouteille ?
Avec le recul, je me dis qu'il y a énormément de choses que j'ai eues et que parfois, en fait, quand on vient pas justement de ce milieu-là, culturel, etc., on a un peu ce syndrome d'imposteur. On se dit, mais en fait, je ne mérite pas ça. Et en fait, là, ce qui est agréable, en fait, c'est que c'est les autres qui nous donnent cette légitimité-là. Et en fait, j'essaie de pas regarder derrière et de tout ce qui a été fait, parce que je me dis, en fait, il y a encore énormément de choses à faire. Comme là, la cour d'honneur, je me dis, mais c'est un rêve que je ne pouvais même pas imaginer quand j'ai commencé le théâtre. Donc
surtout quand on n'a jamais mis un pied à Avignon, alors que
ouais,
ça fait déjà 15 ans qu'on en fait.
C'est assez fou, non, je suis gâté, franchement.
Jamais vous vous êtes dit, c'est pas pour moi, ou la passion de toute façon dépassait cette question ?
Ouais. En effet, j'ai pas eu de frein. J'ai pas eu de frein parce que je me suis dit, de toute façon, c'est simple, c'est ça qu'il faut que je fasse, et c'est ça que je vais faire. Et que même les personnes qui m'entouraient ne m'ont jamais dit que c'était impossible. Et que ce soit mes parents, mes proches, que ce soit mes professeurs aussi. Et ils m'ont dit, ok, tu veux faire du théâtre ? Ok, très bien. Bah vas-y, il y a telle école, vas-y. Et j'y suis allé. Et ça, c'est important aussi, le fait de ne pas avoir de pensées limitantes, en fait.
Ouais, c'est ça, de gens qui vous disent « Marre, ça va être très très difficile,
exactement.
Tu ne te rends pas compte, c'est beaucoup de travail. » Votre premier rôle principal à la Comédie Française, le premier principal, hein, c'est celui de Macky dans une mise en scène de l'Opéra de Katsou de Bertolt Brecht, mise en scène par Thomas Ostermayer, que vous retrouverez peut-être à Avignon, du coup, puisqu'il a une pièce. Je crois que ça a été un rôle très important pour vous. Macky, c'est l'histoire d'un magouilleur qui veut prendre l'ascenseur social le plus vite possible. Il épouse une fille bien née. Qu'est-ce qu'il évoquait pour vous, ce premier personnage, ou c'est vous qui tenez le rôle vedette?
Ouais, alors plus qu'un magouilleur, hein, c'est quand même un criminel, un proxénète, enfin il avait vraiment...
Oui, magouilleur c'est un mot, c'est un euphémisme.
Ouais, voilà. Mais non, en fait ce qui me touchait vraiment chez ce personnage, c'était justement cette quête en fait de reconnaissance vis-à-vis de la société et qui passait justement par des moyens qui justement ne devraient pas être faits, enfin qui n'étaient pas légaux en soi. Et, mais c'était toujours... Il y avait dans ce que Brecht a raconté justement, c'était de dire que tous ces codes sociaux qu'on a finalement sont vains. Non, c'est l'opéra de Katsou, donc c'était pour se moquer justement des codes de l'opéra. Et donc il y avait aussi un ressort qui était très comique. Mais en fait, Macky, il se rend bien compte que même si il essaie d'échapper à sa destinée, en fait, il ne va pas y échapper. Après, le comique fait qu'on va le sauver parce que bon, il était condamné à mort normalement. Et à la toute fin,
il divulgage tout.
Ouais, non, mais voilà, faut. Mais c'est vraiment pour expliquer en fait justement ce code. Et après, dans l'opéra, il y a toujours au moment où le héros doit mourir, il y a un chevalier du roi qui arrive et qui dit sous l'ordre du roi, il a estimé qu'il fallait pas condamner cette personne. Mais voilà, il y avait un
parallèle entre les codes de l'opéra qu'il est en train de tout péter, Bertolt Brecht, et ce Macky qui doit deviner et comprendre des nouveaux codes tout le temps. Et
c'est exactement ça, de passer en fait ces transfuges de classe, en fait ces personnes qui passent d'une classe sociale à une autre, et puis aussi une dimension très politique aussi dans son propos.
Vous comparez la Comédie Française à l'équipe de France de foot, c'est quoi les similitudes?
Ben c'est, on est une équipe, c'est-à-dire qu'on a des acteurs qui jouent, donc des joueurs, et on a aussi des remplaçants. Et moi, j'estime que le rôle principal, c'est le buteur, c'est l'attaquant. Et en même temps, à côté, on a besoin des autres. On a besoin d'un milieu qui lui fait la passe, on a besoin d'un gardien, on a besoin d'un défenseur aussi. Et que tout le monde, si le PSG arrive à faire d'aussi belles choses, c'est parce que c'est une équipe. Et voilà, c'est pareil pour la Comédie Française.
Et les gens dans le public aussi.
Aussi, c'est un spectacle, c'est du divertissement.
Alors, votre rôle dans Mercato de Jamel Debbouze, où vous jouiez un joueur de foot, finalement, c'était pas du tout un rôle de composition. Après ce portrait trop rapide, on va parler de vos rôles cette année, bien sûr, dans Tchekhov, dans ce soulier de satin qu'à Avignon a hâte de découvrir dès samedi prochain. Ce sera après le panorama de la culture, où on va écouter pas mal de nouveautés. Et la musique, ça commence maintenant avec celle qu'on ne présente plus. C'est Théodora qui invite Luigi sur ce Go, comme non, allez, go.
Tu suave, tu suave. Y a faire comme un jeudi. S'il y a un piqué à se faire, moi je dis go. Pour mes orphelins, mes enfants, on dit go. T'es autour, parce que tu me donnes le go.
S'il y a un piqué à se faire, moi je dis go.
duo de Théodora et Luigi, dont on soulignait le talent hors antenne, la Big Boss Lady, qui poursuit sa tournée d'ailleurs des festivals, qui a déjà rempli 4 zéniths prévus pour mars 2026.
Le mag de l'été sur France Inter.
Tous les jours à 18h33 et 36 secondes exactement, le mag de l'été se met en mode vigie culturelle. Qu'est-ce qu'on écoute? Qu'est-ce qu'on lit? Pourquoi on sort? C'est le panorama culturel.
Panneau?
Oui?
Obé? Non, c'est panneau!
Aujourd'hui, on écoute ce qui sort et on sort écouter des choses, mais d'abord, on s'inquiète.
Dans la tachycardie contemporaine et politique, c'est très dur d'être là et de pouvoir prouver ce qu'on fait. Il fut un temps où des gens plantaient des arbres pour une ombre dont ils ne bénéficieraient pas eux-mêmes, mais ils le plantaient pour que d'autres gens soient à l'ombre un jour. Et pour moi, la culture, c'est cette œuvre lente. Elle est extrêmement importante, donc ça veut dire que les politiques doivent faire ce choix-là. C'est une lenteur, c'est une longueur. Il faut croire à cette chose-là. C'est d'une importance de civilisation extrêmement importante.
Éric Ruff qui parle de culture alors que les budgets pour la culture ont été réduits dans 47% des collectivités locales entre 2024 et 2025. Un collectif d'artistes italiennes alerte, elles, sur leur propre situation dans une tribune dans Libération. Elles racontent comment le gouvernement de Giorgia Meloni les anéantit. Elles disent leur impuissance, leur sentiment d'être incapables, de ne pas être à la hauteur. Elles racontent qu'elles ne réagissent plus à chaque baisse de budget, à chaque mot, à chaque festival qui s'éteint ou qui s'étiole, comme par exemple le festival de Santa Cangelo, dont les coupes sont assumées par Giorgia Meloni qui dit, et je la cite, « C'est un choix culturel. Ces dernières années, le festival a montré des spectacles ouvertement opposés aux valeurs fondatrices de notre société, la famille, la religion, la nation, jusqu'à diffuser des messages qui critiquent les institutions elles-mêmes. » Tout ceci, cependant, ne va pas arrêter les artistes de faire de la musique dans leur coin ou avec leur public. Alors que Kendrick Lamar et SZA seront en concert mardi à Paris, à la Défense Arena, c'est Mary J. Blige et 50 Cent qui s'occuperont d'enflammer l'arène dimanche. Mais on est vendredi et vendredi, c'est jour de sortie. Swag, le nouvel album de Justin Bieber, enchante les internets. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt ça.
Est-ce qu'un jour vous me pardonnerez? Est-ce qu'un jour vous me pardonnerez?
Et oui, oui, c'est bien Stromae sur le nouvel album de Burna Boy, sorti cette nuit, No Sign of Weakness. Et c'est pas la seule présente, surprenante sur l'opus de la grande star nigériane, puisqu'on y entend aussi un artiste du nom de Mick Jagger. Burna Boy sera en concert dans un lieu tenu secret demain soir à Paris. Vous pouvez enquêter avec ou sans Mick Jagger et Stromae. Le mystère, là aussi, reste entier. Et si vous écoutez France Inter toute la journée, vous les connaissez. L'album de Wet Leg, Moisturize, bon, un mot pas très très joli pour dire hydraté, est sorti aujourd'hui. L'histoire donc de deux Anglaises qui remettent l'île de Wight sur les lèvres du rock anglais.
Je me souviens de mon premier boulot. J'étais l'assistant du concepteur-rédacteur chez un fourreur. Un vieux briscard, un grec qui s'appelait Teddy. Et Teddy m'a appris que le mot le plus important en publicité, c'était... nouveau.
Si vous êtes passé à côté de Mad Men, cette incroyable série à sa sortie, retrouvez les tribulations de Don Draper, star de la pub, dans l'Amérique corsetée du début des années 60. Les costumes, le personnage fabuleux d'Elizabeth Moss, une femme empêchée. Les personnages, leur coiffure, Betty Draper, le casting, tout sur Arte TV. On nous offre un gros cadeau avec les 7 saisons qui seront disponibles sur la plateforme gratuitement à partir du 1er août. Et avec moi toujours ce soir à la table du Mac de l'été, le comédien et pensionnaire de la Comédie française qu'on voit aussi au cinéma dans Je verrai toujours vos visages, par exemple, Biran Ba. Le soulier de satin, Biran, dans lequel vous tenez trois rôles, il sera joué la nuit dans la cour d'honneur d'Avignon à partir du 19 juillet de 22h à 6h du matin. C'est ça, les horaires promises. Est-ce qu'on se prépare particulièrement à ce genre de performance ou est-ce que vous êtes en transe de toute façon et c'est comme ça que ça se passe?
Non, je dirais qu'on est plus en panique. Parce que il y a beaucoup de choses à adapter par rapport à la salle Richelieu où on a joué le spectacle. Et donc on se rend pas forcément compte de ce qu'on va faire. On se demande plutôt comment on va le faire. Donc là, on est dans l'appréhension, on répète, on essaie de répéter malgré le fait qu'on soit dans une salle de répétition, mais on sait très bien que les dimensions ne seront pas du tout les mêmes quand on sera à la cour d'honneur. Donc voilà, il y a une petite appréhension. Et je pense que c'est au moment où on va commencer à jouer que là, on prendra du plaisir.
Vous allez improviser un peu sur place, vous pensez,
non,
de la première?
Non, pas du tout.
Ce sera géré d'ici là.
Non, on répète et on va arriver quelques jours avant la première pour pouvoir faire ce qu'on appelle des raccords. Donc c'est-à-dire qu'on fait des répétitions dans le décor et voilà, on s'adaptera.
Ça a quel sens de proposer une expérience comme ça, un petit peu hors du temps? Je trouve qu'il y a un côté, moi en fait, quand je vois ça, qui dit on n'est pas là pour rigoler en fait. On va regarder une pièce de 8 heures toute la nuit, c'est pas du divertissement, il faut s'investir, voire même il faut un peu souffrir quoi. Préparer vos couvertures, un peu de thermos.
En fait non, pas du tout. En fait, pour le coup, on arrive... En fait, le rapport qu'on aura avec le public, il sera très simple parce qu'on sait à quel point... c'est difficile de rester pendant des heures et des heures assis sur une chaise et qu'il fasse froid, etc. Donc en fait, déjà, d'une, on sera dans les mêmes conditions qu'eux, parce que nous aussi, on sera dehors. Et il y aura un rapport avec eux où, en fait, on va leur parler. On va jouer avec eux. On sait très bien dès le début, comme là tout à l'heure on a eu dans l'extrait Serge qui dit action espagnole en 4 journées. On leur fait un signe pour dire tenez bon, on est avec vous et on voyage ensemble. Donc en fait, le théâtre n'est pas sérieux. C'est-à-dire qu'on va parler parfois de choses sérieuses, mais nous, on n'est pas sérieux. Et il y a beaucoup d'humour aussi dans cette pièce.
Satin, ouais.
Et vraiment, les
c'est
gens...
C'est pas forcément le préjugé qu'on a sur Claudel à la base, mais oui, il y a beaucoup d'humour.
Il y a beaucoup d'humour et c'est un auteur qui fait peur, en fait. Dès qu'on entend Paul Claudel, on se dit le rapport à la langue, on se dit qu'il y a les vers claudéliens, il y a tout ça. En fait, il y a tout un passif, toute une histoire qui a été racontée sur sa langue. Et en fait, quand les gens arrivent, ils disent « bah en fait, j'ai compris ». Et nous, notre but, c'est ça, c'est que les gens comprennent l'histoire.
Et donc, ce que vous me dites, c'est que vous allez emmener les gens en voyage avec vous. Vous allez faire une petite aventure collective tous ensemble.
À travers le monde, exactement. Et vraiment, on va être au même niveau que le public.
Vous continuez à jouer Une Mouette d'ici là. Alors, Une Mouette, c'est une mise en scène de La Mouette de Tchekhov, mais avec un prologue avant. Comment on range les personnages comme ça, qu'on joue à l'intérieur de soi? Enfin, je veux dire, vous allez enchaîner deux pièces qui n'ont rien à voir. En plus, vous avez trois personnages dans celle du soulier de satin. Comment vous faites pour aller invoquer tel ou tel personnage, vous les rangez comment?
Le cerveau, il est bien fait, c'est-à-dire qu'il fait la distinction. En passant d'une pièce à une autre, on a des décors différents, on a des costumes qui sont différents, on a des partenaires qui sont différents, ce qui fait qu'en fait, tout de suite, c'est une autre ambiance. Et ce qui est aussi amusant, c'est le fait que, même si parfois on peut jouer plusieurs pièces dans la salle Richelieu, on découvre la salle différemment. Parce qu'en fait, c'est pas le même espace. C'est-à-dire que là, par exemple, dans le soulier de satin, dès qu'on arrivait pour répéter, étant donné qu'il n'y avait pas de décor, en fait, la salle nous paraissait immense. Et on s'est demandé, nous les acteurs, comment est-ce qu'on allait faire pour remplir un espace pareil. Et alors que, par exemple, dans La Mouette, les lumières ne sont pas les mêmes. Voilà, il y a du mobilier, ce qui fait qu'on sent la salle différemment. Et en fait, physiquement, en fait, on arrive à passer d'une chose à une autre.
Tout l'environnement qui aide à dissocier les personnages.
Ouais. Et même pour la mémoire, c'est-à-dire que là, tout de suite, même si je dois reprendre une pièce que j'ai pas jouée depuis 3 ans, très rapidement, on me donne le costume, je serai dans le décor. En fait, physiquement, ça va revenir assez rapidement.
Parce que vous dites, être comédien, c'est faire surgir fidèlement un être, sans le trahir, et surtout sans l'occulter. Ça veut dire, par exemple, quand on a 3 personnages dans la même pièce, comment on fait pour le faire surgir? Comment vous l'appelez, le personnage?
Ouais, en fait, moi, je considère que les personnages, ils sont écrits, ils existent. Ils sont au-dessus de nous. Ils sont voilà, à partir du moment, et nous on est uniquement des interprètes, c'est-à-dire qu'on les appelle, on leur dit de venir. C'est un rapport assez mystique en fait finalement, mais en même temps ça nous permet nous de nous décharger et de se dire voilà, je porte tout le poids de ce personnage là alors qu'en soi nous on passe. C'est-à-dire que là le rôle par exemple d'Octave que j'ai joué dans une pièce de Molière dans les Faubourgs Escapins, en fait il y en a eu des centaines,
et il vous traverse en fait,
et en fait il y a un rapport qui est assez particulier. Moi je le considérais comme mon meilleur ami, et en fait dès que je vais commencer à jouer, quelques secondes avant de jouer, je fais appel à Octave, il vient. J'ai toujours cette conscience, moi, j'ai cette part de cerveau où je sais exactement les déplacements que je fais, etc. Mmh. Mais il y a un endroit.
Et c'est Octave
où...
qui est là.
Et c'est Octave, en fait, qui est là devant le public.
On apprend à l'appeler ?
Non, je pense
que c'est.
C'est
pas ça qu'on apprend en cours de théâtre.
Non, c'est vrai, c'est vrai. Bah, après, moi, je pense que le théâtre, c'est premièrement technique. Et après, ce rapport-là qu'on a avec les personnages, c'est un rapport de réflexion et de. Ouais, un rapport assez mystique qu'on a avec les personnages.
Question qui gratte un petit peu, mais qui est très sincère, honnêtement. Quand on est pensionnaire à la Comédie Française, qu'on adore y être comme vous, parce que vous adorez être à la Comédie Française, vous dites, j'y suis comme à la maison, et on va en reparler tout à l'heure.
Ouais.
Pourquoi est-ce qu'on fait du cinéma, si c'est pas pour la notoriété? Pourquoi est-ce qu'on va vers le cinéma?
Parce qu'en fait, le jeu n'est pas le même. C'est-à-dire qu'en fait, au théâtre, c'est nous qui allons vers le public. Le public est là, face à nous, et puis il doit nous entendre, etc. Alors que le cinéma, c'est la caméra qui vient vers nous, qui vient chercher dans les yeux, qui vient chercher ces silences, qui vient chercher cette intensité qu'on a en quelques secondes, voilà. Et au début, j'avais beaucoup de mal avec le cinéma, parce que la temporalité n'était pas celle que j'avais l'habitude, en fait, en faisant du théâtre.
On attend beaucoup au cinéma.
On attend beaucoup, exactement. C'est-à-dire que pour jouer une minute, on va attendre parfois 45 minutes. Et je me suis dit, mais en fait, ça tue l'acteur qu'on est. Et en fait, c'est totalement différent. Et donc, cette intensité, je trouve qu'elle est... Elle est, moi, je l'aime beaucoup, en fait. En faisant les deux, je trouve du plaisir en faisant du cinéma, parce que j'aime bien cette intensité, ce moment-là de... Clac, on a tout préparé pour cette minute-là, précise. Et au théâtre, c'est cette répétition pendant 2 mois, et que cette heure et demie, ou ces 2 heures, ou ces 7 heures, soit unique, ou ces 8 heures, c'est terrible, soit unique pour le spectateur.
En tout cas, j'aurais peut-être d'autres questions comme ça à vous poser avec le Papotin. J'ai envie de vous les présenter. Vous ne les connaissez pas encore et pourtant, ils traînent à la Comédie Française. On va être rejoint tout à l'heure par Julien Bansillon et un de ses journalistes, Stanislas Carmon, qui est aussi chanteur au sein du groupe Astéréotypie. Mais ça, c'est une autre histoire. On va parler avec la revue du Papotin et de leur dernier numéro qui est justement consacré au théâtre. Cette rencontre au sommet, ce sera juste après cette chanson qui est à mon sommet à moi. C'est Bad Bunny sur France Inter avec Noé Vaillol. C'est parti.
Si te quieres divertir,
le robamos las gotas, J-Bone, ey, yo estoy en la... la mía, no tengo adversario. No, con los yankees los me he avanzado. A correr que otra vez lo sacamos al estadio.
Tiene piquete, mami, yo también. Tú estás buena, yo estoy bueno también. Huelo rico y ando con los de 100. Si tú lo quieres, lo tienes que mover. Tú tienes piquete, mami, yo también. Tú estás buena, yo estoy bueno también. Huelo rico y ando con los de 100. Si tú lo quieres, lo tienes que mover. Lo tienes que mover. Ba, 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 ba. Lo tienes que mover. Ba, 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 ba. Lo tienes que mover. Ba, 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 ba. Lo tienes que mover. Ba, 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 ba.
Nueva York, c'était le New York du portoricain et petit génie Bad Bunny.
Le mag de l'été. Marie Misset. Sur France Inter.
Mag de l'été qui vient d'être augmenté non pas d'une, mais de deux personnes. Biranba, vous êtes toujours là, comme un comédien pensionnaire de la Comédie Française. Laissez-moi donc vous présenter officiellement Julien Bansignon. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes rédacteur en chef du Papotin et psychologue. Et Stanislas Carmon. Bonsoir Stanislas.
Bonsoir madame.
Vous êtes journaliste au Papotin. Vous êtes aussi fondateur et chanteur du groupe Astéréotypie. Et puis vous êtes aussi comédien. Le dernier numéro du Papotin est consacré au théâtre. Et son édito, il est signé Éric Ruff, administrateur général de la Comédie Française, grand patron donc, pour encore deux semaines, je crois. J'aimerais d'abord vous demander à tous les deux, à Julien et à Stanislas, parce que je me suis posé la question en écrivant la présentation du Papotin tout à l'heure, quand je dis la rédaction est composée de personnes porteurs d'un trouble sur le spectre de l'autisme et que c'est la façon de présenter le journal, est-ce que c'est un peu réducteur? Comment vous le présentez, vous, le Papotin?
Alors, c'est amusant que vous disiez ça. On n'utilise pas ce mot, au Papotin. C'est les journalistes, les projets d'à côté qui le disent et ça ne pose pas de problème. Mais nous, on dit qu'on est un journal atypique et que les journalistes sont des journalistes atypiques. Voilà, on
fait pas et pas professionnels, vous dites peut-être.
Oui, effectivement, on n'est pas professionnel. Le Papotin réunit plusieurs institutions et ce sont les personnes accueillies dans ces institutions qui participent à une activité journal et on essaye de le faire avec le plus de professionnalisme possible, mais on n'est effectivement pas professionnel.
Stanislas, vous en parlez comment du Papotin quand vous dites je fais ça aussi à côté de mes activités de chanteur, de comédien, je participe aussi au Papotin?
Moi, je suis très, très content de pouvoir faire partie de ce projet. C'est sûr que c'est extraordinaire que ce soit devenu une émission.
À la télé, sur France 2, les rencontres du Papotin, je le cite.
Oui, c'est super. Et ça fait plaisir de faire partie d'une si belle émission qui, on n'aurait jamais imaginé qu'elle viendrait voir, qu'on n'aurait jamais imaginé qu'elle puisse voir le jour.
Elle a créé un choc, cette émission, d'ailleurs, pour vous donner une idée de ce que ça donne, pour ceux qui ne connaissent pas, de ce que ça peut donner, les rencontres du Papotin à la télé. Voilà, je vous ai sorti un tout petit extrait avec un autre membre de la Comédie Française, Benjamin Laverne.
Merci beaucoup. C'était un moment magique, comme je pense que j'en ai peu vécu dans ma vie et comme je n'en revivrai pas. Et j'ai été très ému par votre écoute, cet échange. Et puis surtout, de parler de tous ces sujets dans le désordre, en fait, je crois que ça amène à la sincérité dont on parlait tout à l'heure. En tout cas, on essaye de s'en approcher parce que justement, on n'a pas le temps de se préparer. Et c'est ça qui est formidable dans votre manière, je trouve, d'appréhender l'autre. C'est de le surprendre et de toujours s'intéresser à lui par plein de bouts et de bords qui fait qu'on en ressort un peu plus heureux et intelligent. Donc je vous remercie de ce cadeau.
Bravo!
C'est encore très vrai dans ce numéro spécial consacré donc au théâtre. Pourquoi vous intéresser au théâtre spécialement, particulièrement? Quelle est la réflexion collective qui vous en a fait venir là, Julien Bansignon? C'est quoi le lien entre le Papotin et le théâtre, qui semble évident quand on lit?
Il était là dès le début, puisque le premier parrain du Papotin et le premier invité du premier journal qui est sorti en mai 90, c'était Howard Buten, clown, écrivain et psychologue. Et en 99, le Papotin avait sorti un numéro spécial théâtre. Donc il y a le Papotin se place dès le début comme une activité d'accompagnement vers l'accessibilité à la culture.
Et donc le théâtre en fait partie naturellement.
Voilà, exactement. Et les personnes qui sont accueillies dans les institutions qui constituent le Papotin, souvent ont des difficultés à aller au théâtre. C'est pas évident. Les familles des fois ont des réticences. Il faut être particulièrement silencieux. Il y a tout un tas de codes à suivre pour être spectateur de théâtre.
On vous regarde pas de travers.
Qui est pas évidente. Donc on les a accompagnés vers ça et avec évidemment c'est toute la dimension journalistique qui fait qu'en plus on rencontre les acteurs, les metteurs en scène, qu'on les interviewe et qu'on en retire autre chose qu'être simplement spectateur.
Dans son édito, Éric Ruff dit que le Papotin se sent très bien à la Comédie-Française, que vous y traînez beaucoup. Vous pouvez m'expliquer ce bien-être, Stanislas, pourquoi vous vous sentez bien à la Comédie-Française, Carmon ?
Je me sens bien parce que c'est un endroit très, très prestigieux. Et c'est un moment unique dans une vie de pouvoir faire un stage à la Comédie-Française.
C'est vrai, Stanislas, que tu as fait un stage là-bas.
On va en parler, bien sûr. Oui. Mais parlez-en tout de suite. Vous avez assisté à des répétitions d'une pièce de L'île au bord qui s'appelle La Souricière.
Oui, j'ai.
Pendant des semaines.
J'ai écrit en fait à Éric Ruff une lettre et je lui ai demandé si je pouvais faire un stage pour avoir un lien. Plus près, si je pouvais créer un lien plus fort avec les comédiens, de plus près. Et jamais j'aurais imaginé qu'il me réponde et qu'il me dise, mais bien sûr, évidemment. Enfin, il m'a pas répondu, mais il a été très motivé de pouvoir me trouver un stage et ça m'a beaucoup ému parce que je pensais pas qu'il le ferait. Je me suis dit, il est peut-être très occupé. Et finalement, ça s'est fait. Ça a été une réelle émotion de se dire que il avait eu envie
de partager aussi, parce que ce qu'il a l'air de dire, en tout cas ce que L'île au bord qui vous a accueilli a l'air de dire, c'est que vous avez aussi apporté quelque chose dans ces répétitions, puisque vous n'avez pas fait que assister, vous avez aussi participé aux improvisations au début, etc.
Oui, j'ai assisté aux répétitions,
Qu'est-ce qui vous a le plus surpris ? Le truc où vous vous êtes dit, oh là, je ne pensais pas du tout que ça se passait comme ça.
Ce qui m'a le plus surpris, c'est... Non, il y a plein de choses qui m'ont surpris, je pense, parce que il y a des trucs qu'on remarque pas forcément, donc il y a plein de détails qui surprennent un peu. Je pense qu'il y a pas qu'un seul truc et ce que j'ai trouvé fascinant, c'est que quand on assiste à une répétition pour une pièce de théâtre, on a une proximité plus importante avec la pièce une fois qu'elle se joue. On a un attachement plus important avec la pièce et on voit que de plus près ce que la pièce nous apporte.
Ce qu'elle raconte, on la comprend plus en profondeur.
C'est ça.
Vous avez aussi été comédien, vous êtes toujours comédien d'ailleurs, Stanislas. Est-ce que vous avez un conseil à demander à Biranba, qui est aussi comédien ? Est-ce qu'il y a un truc que vous aimeriez savoir ou que vous aimeriez lui demander ? De comédien à comédien.
Alors, qu'est-ce que je dois faire si jamais je stresse parce que j'ai des tonnes de textes à apprendre ? Est-ce que. Comment faut faire pour relâcher la pression et essayer de se dire qu'on va y arriver et tout.
Alors là, moi, je suis pas du tout bien placé pour te conseiller parce que moi, je t'ai vu au cinéma et t'es un comédien formidable, tu vois. Donc là, de te conseiller pour ça, Moi, en tout cas, moi, qu'est-ce que je fais quand je stresse, surtout quand j'ai du texte à apprendre, soit je m'y prends un peu plus à l'avance, parce que souvent, moi, j'ai la tendance toujours à apprendre au dernier moment. Et donc, forcément, tu vois la quantité de travail que t'as, et tu te dis, mais je vais jamais y arriver. Et du coup, je me fais une sorte de planning. Tu vois, je me dis, tel jour, j'apprends de ça à ça. Et je fais pas plus, tu vois. Et je me dis, j'apprends telle scène. Et ensuite, ce sera la prochaine. Et en fait, si je commence à me dire, c'est étape par étape, du coup, je vois plus la montagne, je vois juste l'étape, chaque jour. Et du coup, ça enlève un peu de stress parce que du coup, il y a c'est des petits objectifs, quoi, tu vois. Et à la fin, tu cumules tout et ça fait tout. Mais c'est un excellent comédien, il était formidable.
Ah, un merci, petit truc merci. En plus, on pouvait le voir cette année dans le film de Artus, Stanislas Carmon était aussi. Je te tutoie. Vous êtes aussi extraordinaire sur scène avec Astéréotypie. Moi, je conseille à quiconque passe près d'une salle de concert où vous passez d'aller vous voir. On n'a plus beaucoup de temps, malheureusement, dans cette émission. On va devoir se presser un petit peu sur la fin. J'aimerais avoir vos petits kits de survie à l'été, mais je vous posais une question chacun maximum parce que ça s'accélère. Biranba, une pièce de théâtre à lire quand on est un petit peu réfractaire, qu'on se dit que le théâtre, c'est pas pour soi.
Waouh, je dirais, waouh, là comme ça tout de suite là, je dirais peut-être lire du Victor Hugo. Allez, on va dire Victor Hugo ou Musset. Ah, c'est dur, hein. C'est dur. Allez.
On a qu'à se faire
Victor Hugo, Ruy Blas.
Ruy Blas, allez. Quand on est un peu réfractaire, d'accord. Julien Bansillon, une émission des papotins à regarder en replay si on n'a jamais vu et qu'on veut comprendre ce qui s'y passe.
Celle qui me vient à l'esprit est plus disponible, je crois, sur le replay, parce que ça reste 2 ans et on a déjà 3 ans d'existence. Donc c'est...
Je suis sûr qu'on peut la trouver.
Oui, oui.
Je suis sûr qu'on peut s'arranger.
Il y a celle de Camille Cotin, moi, qui m'a beaucoup plu. C'était la première qu'on tournait en sachant qu'on serait diffusé sur France Télévisions. Donc il y avait une espèce de tension qu'on a surmontée tous ensemble avec elle. Et c'était un très beau moment de partage.
Je suis désolée, j'ai plus le temps. Merci beaucoup à tous.
Merci,
d'être venus.
Merci beaucoup.
Biranba, vous jouez jusqu'au 15 juillet dans Une Mouette à la Comédie Française, mise en scène par Elsa Grana. Après, vous partez au Festival d'Avignon pour Le Soulier de Satin. Et en attendant, on peut vous écouter sur France Culture dans Malcolm X, Une Colère Noire. C'est Les Grandes Traversées, un des meilleurs podcasts du monde. Merci à vous, Julien et Stanislas. Le Papotin, c'est disponible en kiosque. Le numéro est super riche. Il est trop beau. Spécial théâtre, donc. Et puis, je vous signale la tournée d'Astéréotypie. Ce sera aux Vieilles Charrues, notamment le 17 juillet. Je ne dis pas merci à mon équipe, car on n'a plus le temps, mais je pense bien à vous. Je dis bien quand même un grand merci à Étienne Bertin d'avoir remplacé Lucie Le Marchand à la rescousse et au dernier moment. Aujourd'hui à la technique, c'était Florian Dorimini.